Turning now to the Gospel of Mark, chapter 5 and verse 36.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5, verset 36. L'Évangile de Marc, au chapitre 5, verset 36. Aussitôt que Jésus eut entendu cela, il dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Et ce sont ces paroles, ces deux mots à la fin du verset « crois seulement » que j'aimerais souligner ce soir. Et je voudrais considérer le récit de la guérison de cette jeune fille. Et ces paroles qui sont également dans le récit de l'évangile de Luc « crois seulement ». Parce que comme cette foi en Christ était requise pour que cet enfant soit guéri. De même, seulement la foi est requise pour notre salut. Et c'est là mon sujet. Pourquoi est-il essentiel de croire? Et j'aimerais considérer ce sujet ce soir. Venir à Dieu, de nous approcher de lui, de le rencontrer, d'avoir cette communion avec lui, cette relation avec lui. Comment est-ce que nous devons faire ceci? Et la réponse du Seigneur, c'est « crois seulement ». Et nous avons besoin d'examiner ces paroles. Ceci est tellement important. Tout d'abord, nous avons besoin de parler de certaines choses négatives et nous devons mettre de côté quelques erreurs qui sont insensées et terribles et qui détruisent les âmes. Vous ne pouvez jamais connaître Dieu et la réconciliation avec lui. Si vous ne comprenez pas ce que cela signifie que de croire seulement et l'importance de ces paroles, il y a beaucoup de gens, de nombreuses personnes qui pensent que pour avoir un contact avec Dieu, cette relation avec lui, cette communion avec lui, c'est une question de présomption. Peut-être vous pensez que Dieu, s'il est là, il est prêt à nous recevoir, peu importe la manière dans laquelle nous nous approchons de lui, sans condition, que nous pouvons simplement venir à lui et l'invoquer. Peu importe de quelle manière, comme nous le voulons, et ceci n'a pas besoin d'affecter notre vie, de nous transformer, ceci ne requiert aucune consécration, nous pouvons simplement venir à lui. Et c'est là probablement la croyance la plus répandue de comment nous approcher de Dieu. Comme si Dieu ne pouvait pas être offensé et il n'est pas en souci par rapport à nous. Il n'est pas un Dieu saint en aucune manière. Il n'y a pas de barrière entre nous et Dieu. Il n'y a pas cette notion de péché, pas de problème de culpabilité, rien pour nous empêcher de venir à lui. Et nous pensons que nous pouvons simplement venir à Dieu dans nos propres termes et conditions, comme nous le voulons, à n'importe quel moment, comme nous le voulons. C'est là la croyance la plus répandue. Et c'est une grosse erreur. Et c'est une erreur évidente, parce que cette croyance pense que Dieu ne peut pas être offensé. Il n'a pas de critères moraux. Et il n'y a rien qui peut nous séparer de lui et nous empêcher de l'invoquer quand nous le voulons et ensuite de le mettre de côté en pouvant passer de l'athéisme à la foi et de retour à l'athéisme comme nous le voulons. Mais ceci est présomptueux et ignorant et toute la parole de Dieu du début à la fin nous montre que nous ne pouvons pas faire ceci. Nous ne pouvons pas faire ceci avec Dieu, ceci est hors de question. Parce que ceci, c'est une ignorance de Dieu, de son aide, de sa majesté, de sa sainteté. C'est une ignorance de cette grande barrière qui nous sépare de Dieu. Ainsi, je commence avec ces choses négatives, parce que cette croyance est si répandue. J'espère que personne présent ici ne pense ces choses, que Dieu, nous pouvons simplement nous approcher de lui en nos propres termes et conditions. Ensuite, il y a autre chose qui est une chose erronée. Il y a cette notion qui est très répandue dans le monde que nous pouvons nous approcher facilement de Dieu par nos œuvres. Parce que nous pouvons changer nos voies et faire un peu de bien dans ce monde, et ainsi nous pouvons nous approcher de lui et lui rendre quelque chose, faire quelque chose, une bonne œuvre pour lui. Et ainsi Dieu va fondre et va nous accepter, peu importe ce que nous avons fait avant, peu importe ce que nous avons été, peu importe si nous sommes loin de lui, si nous l'avons insulté, peu importe, Dieu va nous accepter si nous faisons quelques petites choses bonnes. Et il attend de nous recevoir. Il n'est pas celui qui est la victime, le Dieu que nous avons offensé, le Dieu saint, et un peu de bonne œuvre, il va nous donner sa faveur. Et nous pensons que nous pouvons accomplir ces œuvres, nous pouvons en faire suffisamment pour mériter la faveur de Dieu, pour être acceptés devant lui, pour lui plaire. Et ainsi nous pouvons nous approcher de lui, mais c'est une autre approche erronée dont parle la Bible. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu par nos propres œuvres. Et il y a encore une autre approche qui est fausse, qui a été très répandue dans l'histoire du monde, dans ces fausses religions, que nous pouvons nous approcher de Dieu par des cérémonies et des rites. Oh, ceci a été très répandu. Peut-être vous avez été impliqué dans une religion qui croit dans ces cérémonies, qui pense que si vous faites certaines cérémonies, peut-être vous avez fait ces choses, peut-être vous avez été baptisé comme étant bébé, en pensant de manière erronée que par ce baptême, ceci va vous donner cette grâce de Dieu et vous êtes accepté devant Dieu et tout va bien, que vous n'avez pas besoin d'être en souci. C'est une cérémonie, un rite qui vous amène la réconciliation avec Dieu. Et les gens croient ceci toute leur vie. Les odeurs, les cloches, ces cérémonies, les costumes différents, tout ceci peut vous amener cette réconciliation avec Dieu, comme si Dieu était un grand fan de toutes sortes de théâtres. Mais ceci devrait être évident pour nous, pour chacun d'entre nous, que ceci est présomptueux, que c'est une autre approche qui n'est pas valable, qui peut jamais amener l'âme dans l'union avec le Dieu Tout-Puissant. Et beaucoup de gens pensent que tout ce dont nous avons besoin pour être réconciliés avec Dieu, pour nous approcher de lui, c'est de croire qu'il est là, simplement dans leur esprit. Certains disent vaguement que Christ existe et ceci suffit. Je crois en Dieu et ceci n'a pas changé ma vie. Je ne me suis pas repenti de mon péché. Je ne l'ai pas cherché réellement. Je n'ai pas senti ce toucher de Dieu pour m'affecter dans ma vie. Je n'ai pas cette faim, cette soif de lui pour vivre pour lui. Mais je pense que ça suffit. Non, chers amis, ne soyez pas dans l'erreur, ne soyez pas trompés. Cette adhésion mentale n'est pas suffisante. Ou ces techniques de méditation ne sont pas suffisantes non plus. Toutes ces techniques de méditation pour se mettre en rapport avec Dieu, avec l'essence spirituelle de Dieu, tout ceci est du mysticisme. Et ce sont des techniques qui ne peuvent pas vous amener en contact avec Dieu. Parce que ceci a été conçu par l'imagination. Ceci n'existe pas. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec Dieu par ces techniques. Certaines personnes essayent de visualiser Dieu, toutes sortes de choses. Tout ceci, ce sont des erreurs, des manières erronées de chercher Dieu. Et ces choses ne vont vous amener nulle part. Un jour, vous tiendrez devant Dieu, condamné pour l'éternité. Croire dans le Nouveau Testament a une signification particulière. Ce terme croire, quand l'Écriture enseigne que nous devons croire, cela est opposé au terme de travail ou d'œuvre. La foi, au lieu de cérémonie, de ses œuvres, ces choses ne sont pas suffisantes. La foi. Mais quelle sorte de foi? Et c'est là ce que j'aimerais souligner à présent. La foi, croire, et c'est là la chose importante par rapport au terme croire. Ceci implique la pensée, la compréhension. Alors que je prêche, J'espère vous faire réfléchir et faire réfléchir votre esprit, votre compréhension. Je ne parle pas à vos émotions, mais je parle à votre esprit, à votre pensée. Parce que la foi, c'est un acte de l'esprit, de la pensée. Pour croire, vous devez comprendre ce en quoi vous croyez. Vous devez connaître ces choses. Ainsi, la foi chrétienne, le message du salut, tout d'abord, doit parler à notre esprit et doit persuader par rapport à certains faits essentiels, par rapport à Dieu, par rapport à nous-mêmes, par rapport à comment Dieu a rendu possible que nous soyons réconciliés avec lui. Et vous devez croire en ces choses. Quand Christ dit « crois seulement », ce sont des faits dans lesquels vous devez croire par rapport à Dieu, par rapport à Christ en général. Et ceci implique votre compréhension. C'est là le premier point. Croire, ceci parle de notre compréhension. Nous avons étudié le livre du Lévitique dans nos études bibliques et vous voyez déjà au temps de Moïse, il y a bien des années, comment les gens ont été enseignés dans leur esprit. Ils ont eu cette éducation très visuelle et tout ce système de sacrifice qui leur a été donné à l'époque. Les Israélites étaient esclaves en Égypte pendant des générations et à présent, leur esprit devait être enseigné comment Dieu sauve et comment Dieu réconcilie les hommes avec lui-même. Ces choses leur ont été données comme aide visuelle, comme illustration. Ces sacrifices ne pouvaient pas les pardonner, mais ces sacrifices enseignaient le peuple comment Dieu pouvait pardonner. Il devait y avoir une expiation, il devait y avoir quelqu'un qui représentait le pécheur et quelqu'un devait prendre la condamnation à notre place. C'est là ce que Dieu allait faire un jour, il allait envoyer le sauveur et le sauveur va ôter la culpabilité et le péché et va prendre notre place dans le sacrifice. Et avant de sacrifier l'animal, vous posiez vos mains sur l'animal et ainsi c'est comme si vous transfériez vos péchés sur l'animal. Quelqu'un doit mourir pour vos péchés, quelqu'un doit être condamné pour vos péchés, c'est là ce que cela montrait. Et ensuite, dans la fumée qui sortait de ce sacrifice qui brûlait, c'était comme une odeur agréable parce que cette victime qui est sacrifiée doit offrir cette justice que vous n'avez pas pour mériter la bénédiction de Dieu à votre place. Ainsi voyez-vous, le sacrifice était une leçon pour instruire les gens et leur esprit. Ces gens qui étaient esclaves pendant des générations, ils devaient être enseignés de manière profonde, qu'il devait y avoir une expiation pour le péché. Quelqu'un d'autre devait souffrir pour vous. Le Fils de Dieu allait venir. Et dans son propre corps, il est mort à la place de tous ceux qui seront sauvés. Ainsi, l'Esprit était enseigné. Et à l'époque, ils avaient le tabernacle et plus tard le temple. Ils avaient le Saint des Saints et Dieu, il ne pouvait pas s'approcher de lui. Mais le représentatif de sa présence était là derrière un voile. Et le prêtre qui allait près de cet endroit devait passer par toutes sortes de purifications. Et ceci montrait que Dieu est saint, que nous ne pouvons pas nous approcher de lui tel que nous sommes. Il doit y avoir un médiateur, quelqu'un entre nous, et nos péchés doivent être pardonnés. Et nous devons être lavés pour être acceptés par Dieu, parce que sa sainteté nous détruirait si nous pouvions venir à lui sans être pardonnés. C'est là ce que c'est que la foi, parce que l'esprit doit être instruit. Vous devez comprendre la sainteté, la majesté de Dieu, cet état de péché dans notre cœur, combien nous avons besoin d'un médiateur, de la réconciliation avec Dieu. Ce n'est pas que vous croyez simplement, non. Vous devez comprendre ces choses, ces principes fondamentaux. Maintenant, nous n'avons plus ce système d'adoration qui a cessé avec la venue de Christ. Cette illustration est finie. Mais c'est de même aujourd'hui, nous sommes enseignés dans la parole de Dieu. Et l'esprit, la pensée doit comprendre ces choses. C'est là ce dont nous parlons ce soir. Nous devons réaliser la sainteté de Dieu et combien nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu à moins que nous soyons purifiés par lui et pardonnés. Vous devez réaliser combien l'homme est dans un état de perdition. Nous sommes perdus, nous sommes loin de lui, nous avons transgressé ses commandements et nous sommes dans un état de péché, dans nos cœurs. Nos cœurs ont chuté et sont pleins de péchés. Ce ne sont pas simplement les choses que nous faisons et que nous disons, mais nous sommes dans la nature même. Avant que Dieu ne commence à œuvrer dans notre cœur, nous sommes dans notre nature même orgueilleux. Bien sûr, il y a du bien en chacun d'entre nous, et il y a un peu d'amour en chacun d'entre nous. Dans sa grâce, le Seigneur garde ces choses dans nos cœurs. Mais la nature humaine est corrompue et pleine de ruines, elle est gâchée, et il y a le mensonge en chacun, et cet orgueil, cette avarice, et cette impureté également, toutes sortes de choses. Notre cœur est dans un état terrible. Il a chuté loin de Dieu, c'est pour cela que nous avons besoin d'un médiateur. Nous avons besoin de quelqu'un pour porter notre péché, de manière à ce que Dieu puisse nous accepter. Et nous avons besoin de réaliser notre condition perdue, et la condition perdue de ce monde. Le monde continue, il y a des choses merveilleuses dans le monde, parce que Dieu a donné à la race humaine cet esprit intelligent, la créativité. Et il y a tout le temps des avancées, des découvertes et beaucoup de choses extraordinaires, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont toujours les mêmes. La guerre, les querelles, la méchanceté, la jalousie, les guerres, les problèmes, les difficultés, la cruauté, toutes sortes de méchancetés autour de nous constamment. Et ceci ne change pas parce que nous sommes une race qui est corrompue. Nous devons accepter ces choses. Je suis un pécheur devant Dieu. Pour être réconcilié avec lui, j'ai besoin de son pardon. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de quelqu'un pour prendre le fardeau de mon péché. Et j'ai besoin d'être transformé. Ainsi, vous devez comprendre notre nature pécheresse et perdue. Crois seulement. Mais crois quoi ? Que j'ai besoin de la réconciliation avec Dieu. Dieu est saint, moi je suis corrompu. Ce sont là les choses que nous devons comprendre et dans lesquelles nous devons croire. Ainsi, ensuite nous devons comprendre la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Crois seulement en lui. Lui est le Sauveur. Dieu est venu lui-même, la deuxième personne de la Trinité glorieuse. Nous lisons dans l'Écriture, lui est venu et lui a accompli toutes les illustrations anciennes de l'expiation, du sacrifice, etc. Bien sûr, même avant qu'il ne soit venu, le prophète a vu ces choses. Dans Ésaïe 53, ce passage si connu à partir du verset 4 qui prédit la venue de Christ. Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin. Et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Cette œuvre de Christ, Christ est venu dans ce monde. Il a pris sur lui-même, en lui-même, ce corps humain. Et il est né à Bethléem. Qui ne sait pas cela ? Pour être celui qui nous représente, notre médiateur, notre bouc émissaire, celui qui porte nos péchés. Et il est allé à la croix du calvaire pour nous et il s'est laissé arrêter dans une faiblesse apparente, mais il n'a jamais été faible, il aurait pu partir, mais il s'est laissé arrêter. Il a été maltraité, traité cruellement et fouetté et cloué à une croix. Et Dieu le Père a déversé sur lui toute la culpabilité de tous ceux dans le monde qui seront pardonnés. Et il l'a condamné, lui, à notre place. Dans une condamnation qui a été principalement invisible, si intense, si terrible, profondément dans son âme, il a souffert toute cette séparation d'avec Dieu. et toute cette anxiété, toute cette angoisse, cette horreur que nous aurions dû porter pour l'éternité, tout ceci concentré dans l'espace de 6 heures. Et il a tout porté. Et ainsi, il a accompli le salut. Il a payé le prix pour notre salut. C'est là ce que vous devez comprendre. C'est là ce en quoi vous devez croire. Je crois que Dieu est saint. Je crois que je suis séparé de lui parce que je suis corrompu, dépravé, un pécheur. Et je crois que Dieu a envoyé un sauveur, Jésus-Christ, le Seigneur, égal au Père. Et lui a souffert de manière si terrible en son grand amour pour sauver un ver si misérable tel que moi. Je crois en lui de tout mon cœur. Vous dites, il est le seul chemin du salut. Personne d'autre n'aurait pu faire ceci. Aucun ange n'aurait pu accomplir cela. Aucun être humain n'aurait pu accomplir ces choses parce que cette personne aurait eu ses propres péchés et les premières secondes de l'agonie de la croix du calvaire aurait détruit un homme. Mais seul Christ pouvait être mon sauveur parce qu'il est venu en tant qu'homme. Il pouvait réellement souffrir pour moi à ma place. Et parce qu'il était Dieu, il pouvait être soutenu dans ses heures les plus terribles possibles. Croyez en lui, dans son grand amour, dans sa personne. Il était saint dans son œuvre à la croix du calvaire pour les pécheurs. Ensuite, nous devons croire dans l'éternité. C'est là le problème. Je ne suis pas là seulement pour ma vie terrestre, mais je suis créé par Dieu avec une âme immortelle. Quand je meurs, à la fin de cette vie, je vais dans l'éternité et je me tiens devant Dieu dans le jugement. Est-ce que je serai condamné pour l'éternité? Ou est-ce que je serai reçu par lui? L'éternité est là en jeu, chers amis. L'éternité, c'est ce qui est important. Également la vie terrestre, mais ce qui est le plus important, c'est l'éternité. Nous devons croire en cela parce que c'est une question de vie ou de mort, d'enfer ou de ciel. Et vous devez également croire dans l'efficacité unique de la mort de Christ pour sauver votre âme. L'efficacité exclusive de la mort de Christ. N'essayez pas de mettre quoi que ce soit à côté de lui. Certaines personnes ont fait cela. Oh, j'entends ce que vous dites, je crois en Christ. Ainsi, si je peux offrir un peu de ma propre justice, plus un peu de foi en Christ, alors ceci va m'amener au ciel. Non, non, jamais. Vous devez vous dire, je crois que je suis perdu et je ne peux pas, par ma propre force, faire quoi que ce soit pour accomplir les critères moraux parfaits de Dieu. Je suis entièrement perdu et je me confie en lui à 100%, rien d'autre. Je lui donne ma vie, je veux l'aimer, le chercher, le trouver et le laisser me transformer et œuvrer en moi pour me transformer réellement. C'est là ce que nous appelons la conversion. Oui, croyez en cela. Et pour finir, chers amis, je dois vous dire cela. Vous devez croire dans ce que nous appelons, mais la terminologie n'est pas importante, cette garantie de la foi, cette autorité de la foi. Et je vais vous expliquer ce que cela signifie. Vous devez comprendre que en croyant, si vous croyez réellement de tout votre cœur dans la sainteté de Dieu, dans votre propre corruption, dans votre séparation d'avec lui, dans l'œuvre personnelle de Christ qui est un sauveur, qui a expié le péché, que vous croyez que l'éternité est en question, que vous avez le ciel et l'enfer là devant vous, si vous croyez dans ces choses, alors vous serez sauvés. Il y a une garantie pour votre foi dans ce verset, par exemple, ce verset même. Jésus dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Ce que vous avez entendu, cette autorité de la foi, ce qui a été donné au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Dans cette déclaration, ceci implique que si tu crois, tu n'as pas besoin de craindre. Si tu crois, ta fille sera sauvée sans aucun doute. Si tu crois que je suis le Messie, c'est là ce que le Seigneur voulait dire, que je suis le Seigneur, je vais guérir ta fille. Cette déclaration est pleine d'assurance, d'autorité. C'est une garantie de la foi. Est-ce que vous ne pouvez pas l'entendre ? Ne crains point, crois seulement. C'est une assurance absolue et certaine. Et il y en a d'autres dans la Bible. Vous avez besoin de comprendre ces choses. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, par exemple, et là, Christ parle à un pharisien orgueilleux. Je vous lis quelques versets. Et Jésus lui répondit, il parle à Nicodème, Jésus lui répondit, « en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Une personne doit être convertie, doit être sauvée. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour être réconcilié avec Dieu, vous avez besoin de cette vie spirituelle, de cette vie nouvelle. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et je lis à partir du verset 14, où Christ continue en disant, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Il parle ici de sa mort à la croix du calvaire, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est là une assurance absolue. Si vous lisez ceci en grec, c'est encore plus évident. Quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. C'est une autorité, c'est une assurance. C'est une assurance de la foi. Si vous croyez de la manière dans laquelle je l'ai décrit, de tout votre cœur, si vous repentez de votre péché, si vous lui donnez votre vie, alors vous aurez la vie éternelle. C'est important. Comment vous allez prier Dieu ? Vous allez le prier sur la base de ses promesses. Et une autre référence dans l'évangile de Jean, chapitre 6, et au verset 35, écoutez ces paroles glorieuses. Et Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est une expression d'assurance absolue et entière. C'est une garantie de la foi. C'est une autorité. Ainsi, quand vous venez à Dieu dans la prière, que vous rentrez à la maison, que vous trouvez un endroit calme, que vous dites, « Seigneur, je crois. » Je crois dans la sainteté de Dieu, je crois dans ma propre corruption, dans mon état de péché. Je crois que Christ est un sauveur qui a souffert, qui est mort pour les pécheurs. Je crois ces choses de tout mon cœur, entièrement. Je crois que l'éternité est en jeu. Alors, Seigneur, sauve-moi, aide-moi. Est-ce que votre cœur sera plein de doutes alors que vous priez ? Est-ce que vous vous dites, « Oh, est-ce qu'il va me sauver ? Est-ce qu'il va entendre ma prière ? Comment est-ce que je peux être sûr ? » Vous avez besoin d'une garantie pour votre foi, d'une autorité. Et c'est là ce que j'essaie de souligner dans ces versets merveilleux. Au verset 35, « Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et au verset 37, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. » Et écoutez cela. Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Ceci est une assurance, une autorité merveilleuse. Ainsi, quand vous priez, quand vous vous repentez de votre péché, si vous le faites sincèrement de tout votre cœur et que vous croyez en ces choses dont nous avons parlé ce soir, alors vous savez que Christ entendra votre prière. Et il va étendre sa main, il va vous sauver, il va vous pardonner et il fera de vous son enfant. Et il va œuvrer cette grandeur de conversion dans votre cœur, de manière à ce que vous soyez une personne différente, une nouvelle personne. Il va garder sa promesse, c'est là cette autorité qui vous est donnée, c'est une promesse. Oh, dans un cantique connu, dans un vieux cantique qui disait « Son nom, son honneur est en jeu. » pour me sauver de ce lac de feu. Il a fait cette promesse, il a donné cette promesse, il va garder sa promesse, son honneur est en jeu. Il n'a jamais rompu ses promesses. Je vous ai dit quoi croire. Si vous croyez dans ces doctrines, dans ces vérités, et l'œuvre de Christ, la personne de Christ, si vous lui donnez votre vie, que vous repentez de votre péché, alors vous serez sauvés. Si vous le faites de tout votre cœur, parce qu'il l'a promis. Et il a une intégrité parfaite. Et non seulement il a une intégrité parfaite, mais il a également toute la puissance pour garder ses promesses. Il peut transformer quiconque. Ainsi, chers amis, croyez. Croire, ceci parle de la compréhension, de la pensée. C'est croire, non pas par les œuvres, non pas en méritant quoi que ce soit, mais croire, c'est quelque chose de très humble. Crois seulement. Ce terme « seulement ». Crois seulement. Ceci ne peut pas mériter quoi que ce soit. Ce n'est pas une œuvre. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. J'espère que je n'ai pas rendu ces choses compliquées. Crois seulement. Et de tout votre cœur. Et alors Christ va vous sauver. Réalisez votre condition perdue. Et réalisez la personne, l'œuvre de Christ, le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et croyez que ces choses sont une question de destinée éternelle. Et voyez la puissance exclusive et l'efficacité de l'œuvre de Christ. Et ne mettez rien en parallèle. N'ajoutez rien à Christ, mais croyez en lui entièrement et uniquement. Ô Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, amène-moi à toi. Et si vous êtes sincère, il le fera sans aucun doute. Vous pouvez en être sûr. Et ainsi, je reviens au verset pour conclure, Marc 5, verset 36. Crois seulement. C'est là ce que cela signifie. Crois seulement. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce, Seigneur, et œuvre dans nos cœurs. Ne permets pas que notre orgueil, notre voix insensée, nous fasse errer. Mais Seigneur, ne permets pas que nous soyons si attirés par les choses superficielles de ce monde que nous mettions ces choses de côté. Mais Seigneur, fais-nous grâce et aide-nous, même ce soir. Seigneur, œuvre dans ta grande bonté et sauve les âmes. Pour nous amener à toi, nous te demandons ces choses dans le nom de notre Sauveur et pour sa gloire. Amen.